Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, la Suisse condamnée pour inaction climatique, c'est de la dynamite et pacte asile-migration, opportun ou opportuniste ? Nos débatteurs ce dimanche, Marc Lazare, bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louis de Rome. Votre dernier ouvrage, c'était chez Gallimard, Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties. Magali Lafourcade, bonjour.
Bonjour.
Magistrate, secrétaire générale de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous avez publié les droits de l'homme dans la collection Que sais-je au PUF. Catherine Tricot, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la revue Regard, en une du dernier numéro du magazine Européenne et si on évitait la catastrophe. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Lesky. Bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous avez publié chez Gallimard, c'était en 2020, ce grand dérangement, l'immigration en face. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la Suisse pour inaction climatique. Décision historique, mais qui pose la question de la souveraineté des États face à une justice transnationale. Nous en débattrons, mais tout de suite, notre premier sujet.
La migration est un défi européen qui doit être relevé par une solution européenne, efficace, à la fois juste et ferme. Et c'est ce que propose le pacte de la migration et l'asile. Il fera une réelle différence pour tous les Européens.
Une longue gestation, presque 10 ans pour un vote historique salué par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les eurodéputés ont adopté mercredi le pacte asile et migration. Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur d'ici 2026, après avoir été validées par le Conseil de l'UE. Deux grands principes forment le socle de ce pacte, des contrôles renforcés aux frontières extérieures de l'Europe et davantage de solidarité entre les États membres pour accueillir les réfugiés. Dans le détail, la réforme prévoit une procédure accélérée pour examiner les demandes d'asile, avec un système de filtrage préalable et obligatoire avant l'entrée d'un migrant sur le sol européen. Au bout de 5 jours, le requérant saura s'il peut faire une demande d'asile ou bien s'il fait l'objet d'une procédure de retour. Par ailleurs, un mécanisme de solidarité entre les 27 est mis en place. Il oblige les États membres à contribuer à la charge à laquelle doivent faire face les pays d'entrée, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, soit en acceptant la relocalisation de demandeurs d'asile, soit en aidant financièrement leurs voisins. L'Europe table sur 30 000 relocalisations par an. La France serait susceptible d'en accueillir 4 000. Alors, un tel pacte était-il nécessaire ? Le fait est que l'Union européenne fait à nouveau face à une hausse des demandes d'asile, 1 140 000 en 2023. Elle est aussi confrontée à une augmentation des entrées irrégulières, plus 17% l'an dernier par rapport à 2022, pour un total de 380 000 personnes. Est-ce que c'est ingérable en l'état actuel ? Ce qui est sûr, c'est que politiquement, le sujet est hypersensible. L'extrême droite, qui espère progresser lors des élections européennes de début juin, a fait de la question migratoire l'axe principal de son offensive. Alors, le pacte asile-migration a-t-il pour vocation première de contenir la poussée électorale des mouvements populistes ? C'est ce que dénonce une partie de la gauche et de nombreuses ONG. Alors, ce projet est-il opportun ou opportuniste ? Voilà, c'est le sujet de notre premier débat. Didier Lesky. Ce vote par le Parlement européen du pacte asile et immigration, il a été salué. Donc, on l'a entendu par Ursula von der Leyen. Olaf Scholz, le premier ministre, le chancelier allemand, dit qu'il s'agit d'un pas historique indispensable. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, dit qu'il s'agit du meilleur compromis possible. Est-ce que vous partagez leur enthousiasme?
Je crois d'abord qu'il était important pour l'Europe de ne plus être fantôme, selon l'expression de Régis Debray, sur un sujet qui mobilise les opinions publiques et les autorités politiques de l'ensemble des pays de l'Union. Mais je crois d'abord qu'il faut partir du constat pour essayer de comprendre quelle est l'immigration concernée par le pacte. L'Europe, c'est un continent et l'Union en fait partie, qui accueille beaucoup de migrants. Il y a d'abord une migration légale. Je rappelle que dans l'Union, en 2012, c'était 1,5 million de nouveaux titres de séjour. On est monté à 3,5 millions. C'est une migration légale, c'est de l'immigration familiale, c'est de l'immigration de travail, c'est de l'immigration étudiante. Donc, on est un continent et une Union ouverte. Et du reste, ça se reflète dans le fait que la particularité de l'Europe, c'est que en pourcentage de la population, il y a plus d'immigrés en Europe qu'il n'y en a en Afrique, en Asie ou en Amérique latine.
Ce n'est pas vraiment cette immigration-là qui fait l'objet du pacte.
Et c'est justement, il y a une deuxième immigration qui est une immigration qui, elle, n'est pas régulée, organisée, qui est une immigration qu'on pourrait dire en partie anarchique dans la manière dont elle vient, avec, on le sait, le problème de la traite des êtres humains, mais elle concerne de quoi ? Elle concerne la projection, je dirais, du chaos du monde. Il y a la part de la guerre, mais il y a aussi les dénivellements sociaux importants qui amènent des personnes à venir aux portes de l'Europe de manière, je dirais, non organisée, hein, et qui pose de plus en plus de problèmes. C'est cette immigration-là qu'il s'agit de réguler, en montrant que l'Europe et l'Union européenne a des frontières. Donc il s'agit, pour la demande d'asile, de faire ce qu'on fait déjà, mais en l'inscrivant pour l'ensemble des pays. C'est ce qui se fait en France, par exemple, ce qu'on appelle l'asile à la frontière. C'est ce qui se passe tous les jours à Roissy, hein, avec un examen de la demande d'asile. C'est, et qui fasse la part entre les pays qui relèvent véritablement de la Convention de Genève et les pays où il y a moins de 20% de personnes qui relèvent de l'asile et qui, à ce moment-là, comme on le fait aujourd'hui en France, eh bien, pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine et l'appel ne serait pas suspensif. Et puis, il y a un mécanisme qui s'inscrit cette fois-ci dans le droit, qui était plus ou moins pratiqué jusqu'à présent, qui est celui de la solidarité. J'entends bien les critiques sur le fait...
Attendez, on va les entendre peut-être, les critiques, mais avant d'y réagir.
Je vais terminer. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir inscrit cette solidarité. Bien évidemment, il y a des pays qui préfèrent dans cette solidarité, je dirais, payer par rapport à d'autres qui ont l'habitude d'accueillir. Mais d'abord, 30 000 par rapport à 1 million de personnes qui sont rentrées en 2023, c'est en réalité très peu. Hein, et du reste, les 380 000 font partie des 1 million. Hein, et la deuxième chose, c'est que si ce pacte n'avait pas été voté, le risque, c'était une forme de décomposition accélérée de l'Union. Or,
oui, parce que justement, juste encore un mot, Didier Leschi, avant de passer la parole à nos trois autres intervenants. Donc, je rappelle, hein, vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'Europe, aujourd'hui, n'avait pas les capacités juridiques, administratives, techniques de gérer les flux actuels de migrants.
C'est pas qu'elle n'a pas les capacités. D'abord, les structures administratives sont très différentes pays par pays. L'Italie a un problème particulier dans sa structure administrative puisque la demande d'asile est régionalisée et les préfectures en Italie n'ont pas le même type d'organisation qu'en France où il y a quelque chose de centralisé. Mais ce qui était important, c'est deux choses. C'est d'abord montrer qu'il y a une volonté commune de réguler la frontière, hein, d'avoir des procédures d'asile qui soient à peu près identiques dans l'ensemble des pays, ce qu'il n'est pas le cas aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est d'inscrire dans le droit l'idée de la solidarité. En ce sens-là, c'est une avancée par rapport à ce qui existait avant.
Catherine Tricot, on a vu à quel point cette question de l'immigration, c'était un facteur de division extrêmement important entre les pays membres de l'Union européenne, que le Parlement européen parvienne à un compromis. Alors un compromis, c'est jamais satisfaisant totalement, mais est-ce que ça n'est pas déjà quelque chose qu'il faut saluer ?
Je ne sais pas si c'est simplement un problème de division entre pays, c'est un problème de division politique, je dirais, plutôt qu'une question entre États. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des visions différentes de la manière de gérer la question de l'immigration. Et on a bien vu lors du vote au Parlement qu'il y a eu deux types d'opposition. Une opposition, je dirais, des groupes d'extrême droite et une opposition de toute la gauche française, en tout cas. Parce que les socialistes se sont divisés eux-mêmes.
Voilà, les socialistes européens ont voté pour, mais
les socialistes français n'ont pas voté contre. Voilà, les écologistes ont voté contre et la gauche, le parti de la gauche européenne a voté contre. Et se sont également manifestés lors de ce vote 160 organisations internationales non gouvernementales, les ONG, qui ont demandé aux parlementaires de ne pas voter ce pacte. Elles n'ont pas, se sont pas exprimées contre le fait qu'il y ait une régulation de l'immigration. Par contre, elles ont complètement contesté les termes dans lesquels celle-ci est posée. C'est-à-dire
Vous partagez cette contestation,
absolument,
justement, Catherine?
Absolument. Je partage cela. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce que je pense, c'est que on est dans le problème de... Vous avez parlé d'un risque de délitement de l'Europe. Et je crois que ce risque de délitement de l'Europe, il n'est pas le fait des migrants, mais le fait de nos valeurs qui sont totalement remises en cause, qui sont abîmées s'abîmer chaque jour un peu plus au prétexte de répondre aux inquiétudes et à la poussée de l'extrême droite. Nous nous asseyons sur nos principes et en l'occurrence, on en reparlera tout à l'heure également à propos de la question climatique, mais nous ne répondons absolument pas, par exemple, à ce qui choque profondément les populations, les 50 000 morts en 10 ans dans la Méditerranée. On n'est absolument pas en train de répondre à cette question-là. Et on est en train de faire monter la question des migrations illégales comme une question destructrice pour l'Europe. Alors que ce que je crois qui est destructeur pour l'Europe, c'est notre humanisme qui est normalement consubstantiel de nos cultures.
Mais juste un mot encore, Catherine Tricot. Qu'est-ce qui dans ce pacte vous fait dire qu'on s'assoit, nous Européens, sur nos valeurs? Juste un exemple.
Par exemple, le fait qu'on puisse retenir pendant 6 mois dans les centres de rétention des familles avec des enfants. Ça me paraît, mais ignominieux, voilà. Je ne peux pas le dire autrement. Et puis, par ailleurs, ça c'est le premier point qui me choque. Et le deuxième point qui me choque, mais alors par-dessus tout, c'est les hotspots, c'est-à-dire le fait de chercher à faire gérer par des pays hors de l'Europe la question des migrations. Des pays sur lesquels on peut, non pas avoir des doutes, mais des certitudes sur le fait que les migrants seront maltraités, seront l'objet de violences, les femmes de viol, de torture, de mise en esclavage, etc. Ce qui a été très bien renseigné sur tout ce qui se passe du côté, notamment récemment, de la Tunisie, mais également du côté de l'Égypte.
Dans ce débat qu'on entend déjà un très clivé entre Didier Leschi pour l'instant et Catherine Tricot, comment vous situez-vous, vous, Marc Lazare, ce pacte, c'est une avancée, c'est quelque chose d'utile et de nécessaire?
Le titre de cette partie de l'émission, c'est opportunité.
Opportun ou opportuniste?
Opportunité. Je pense qu'il y a une nécessité. Il y avait une nécessité. Et c'est pas encore adopté par le Conseil européen. Oui. Ça devrait l'être. Mais je crois qu'il y a une nécessité de répondre à un certain nombre de questions brûlantes. Parce que Catherine, c'est pas simplement la pression de l'extrême droite, c'est aussi l'état de l'opinion.
La réponse, le type de réponse que je veux dire.
D'accord, parce que c'est, je crois, il faut aussi partir de ce point de vue-là. Je regardais par exemple les dernières données de l'enquête baromètre de la confiance politique qui est faite par le CEVIPOF et qui cette année s'est intéressée à la France, l'Italie, l'Allemagne et la Pologne. 52% des Polonais trouvent qu'il y a trop d'immigrés dans leur pays. 60% d'Italiens, 61% de Français, 65% d'Allemands. Quand on leur demande est-ce qu'il faut avoir une fermeture sur les questions de migratoires, un Polonais sur deux, un Italien sur deux, 62% des Français, 66% des Allemands. Il y a une inquiétude de l'opinion. Après, on peut avoir un raisonnement moral ou politique là-dessus. Mais je pense que c'est un point sur lequel on doit partir.
Donc cette inquiétude, elle obligeait à agir.
Elle obligeait à agir. Alors après, vous l'avez dit, il y a des compromis. D'ailleurs, des compromis plus compliqués qu'on ne le disait, parce que, par exemple, vous avez dit, Catherine Tricot, que l'ensemble des extrêmes droites avaient voté en faveur de ce pacte. Non, le Rassemblement national a voté contre.
Oui,
et par exemple, Fratelli d'Italia a voté pour. La Ligue a voté pour sur un certain nombre de dispositions, y compris parce qu'il y a effectivement une attente de l'opinion publique italienne. Alors, à partir de ça, moi, je crois qu'il y a évidemment des points qui peuvent choquer, et notamment celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire cette dimension humaine qui n'est pas prise en compte dans ce pacte migratoire. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent être soulignées. Le fait que, par exemple, le traité de Dublin, pour le moment, est toujours en vigueur. Et à cet égard, oui, il y a une série d'amendements qui permettent de le contourner, disons, mais il n'y a pas la renégociation du traité de Dublin.
Il faut rappeler, c'est les règles pour la demande d'asile.
Voilà, c'est le pays qui reçoit le migrant qui doit régler cette question, et on sait que depuis le début, il va falloir réviser ce traité, et ce n'est pas encore fait. La dernière considération, je crois, qui est importante à faire, c'est que, pour moi, je ne sais pas ce qu'en pense Didier Leschi en particulier, c'est que, et là je rejoins un peu Catherine Tricot, c'est une grande victoire d'une personne en Europe. C'est Giorgia Meloni. Ça, c'est vraiment à souligner. C'est-à-dire que c'est l'offensive qu'elle a menée avec, entre autres, le gouvernement suédois. d'abord au Conseil européen de la fin 2023 et ensuite au Parlement européen, gouvernement auquel ne participe pas le Parti populiste national populiste des démocrates de Suède, mais qui a une influence considérable sur ce parti, qui est en train de faire passer ses points de vue. Et le parti charnière là-dedans, c'est le Parti populaire européen, qui est en train de se rallier à une série de propositions qui vient justement de ces nationaux populistes. Dans une note qu'on est en train de préparer à l'Institut Montaigne, qui va apparaître dans 15 jours, on insiste beaucoup sur ce point, c'est que ces nationaux populistes sont de droite, sont à l'offensive, qu'en même temps ils sont divisés, et profondément divisés, y compris sur ces questions d'immigration, mais qu'en revanche, ils font passer un certain nombre de leurs thématiques, et ce qui aboutit effectivement à ce type de compromis.
Alors je vais évidemment donner la parole à Magali Lafourcade, mais une réaction quand même, Didier Leschi. Je vous ai vu notamment leur acquiescer quand Marc Lazare a dit la victoire, c'est une victoire pour Giorgia Meloni, donc la première ministre italienne. Ça conforte quand même peut-être l'idée que ce pacte asile-immigration, il se manifeste avant tout par un durcissement des règles et par l'idée que l'Europe se transforme un peu en forteresse.
J'ai acquiescé surtout sur la question des opinions publiques, mais sur les règles, les 6 mois, si vous voulez, la rétention en Allemagne, c'est déjà beaucoup plus de 6 mois, donc il n'y a pas de nouveauté, si vous voulez, de ce point de vue-là. Mais c'est pas ça le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est que les opinions publiques sont inquiètes quant à la pérennité de l'État social, si vous voulez, des systèmes sociaux européens. Et ils le sautent d'autant plus que une grande part de ceux qui arrivent ne sont pas des personnes qui sont immédiatement victimes de conflits armés, mais sont des personnes qui sont victimes de la dérégulation, de la mondialisation ou des écarts sociaux. La question de l'Italie, par exemple, est très prégnante. Pendant plusieurs années, la première nationalité qui débarquait en Italie, c'était les Tunisiens. C'est-à-dire, c'était en Italie la projection de l'échec des printemps arabes. Je rappelle que les deux premiers, parmi le gros bloc des personnes qui rentrent en Europe tous les ans dans le cadre de la demande d'asile, eh bien, ce sont les Vénézuéliens et les Colombiens. Mais les Vénézuéliens, c'est l'échec de la dernière révolution, entre guillemets, qui n'en est pas une à mes yeux, mais qui était saluée par une partie de la gauche. Et on peut y rajouter l'ensemble des nationalités venant des pays de l'Est, qui ont constitué pendant plusieurs années en France la première nationalité, les premières nationalités en demande d'asile, c'est-à-dire la libéralisation sur la base de la décomposition du communisme qui a généré des écarts sociaux de plus en plus grands.
Mais donc, pour vous, la question de la rétention, la question de la gestion à l'extérieur des frontières de l'Union européenne
pour
vous ?
Dans le pacte, c'est pas ça. Le pacte dit qu'on va mettre en place un territoire qui est physiquement sur l'Europe, mais qui n'est pas juridiquement sur l'Europe. Mais Magali Lafourcade est plus spécialiste que ça. C'est Giorgia Meloni qui essaye de passer un accord avec l'Albanie, mais ça pose des problèmes juridiques que le pacte n'avalise pas. Donc c'est pas ça le sujet. Mais le sujet de fond, c'est comment on répond à cette inquiétude. Et c'est là où on voit, bien évidemment, que les populistes, et en particulier Giorgia Meloni, ont joué habilement, parce que ils jouent à la fois sur ces craintes, mais qui sont des craintes qu'on retrouve aussi dans une partie de la gauche. On a beaucoup parlé du Danemark, de la Suède, c'est-à-dire dans ces pays qui sont historiquement des pays de l'État social. Et le problème qui se pose, c'est de savoir si les excès de la mondialisation ne vont pas à la fin utiliser les migrations pour déstructurer les états sociaux. Et on voit bien que, malheureusement, les immigrés peuvent être des révélateurs de difficultés sociales, dont ils peuvent être eux-mêmes victimes, et se rajoutent à ça des problèmes d'intégration. Victime, c'est le logement. On parle beaucoup du logement, mais l'intégration des immigrés, ça passe par le logement. Je rappelle que l'année dernière, par exemple, on a donné 50 000 protections, c'est-à-dire à des réfugiés en France, et que notre problème, c'est comment on les loge et comment on les amène au travail dans une situation économique et sociale qui est extrêmement tendu et sur lequel il y a une concurrence en particulier entre les plus démunis.
Je remercie Magali Lafourcade pour sa patience. C'est à vous.
Ce qui n'est pas ma qualité première.
Mais si, je l'atteste.
Donc, moi, je trouve que ce sujet, surtout quand Marc Lazare parlait des enquêtes d'opinion, extrêmement difficile, puisque souvent le débat est assez hystérisé. On voit bien les arguments, les amalgames, les slogans qu'utilisent beaucoup de groupes d'extrême droite, avec des enjeux sécuritaires, identitaires, qui sont parfois assez fantasmés. Et donc merci beaucoup à Didier Leschi d'avoir rappelé que l'Union européenne n'était pas une forteresse puisqu'elle permet il y a 95% des entrées dans l'Union qui est de l'immigration légale. Elle n'est pas non plus une passoire puisque en fait il y a quand même très peu de personnes qui ont migré vers l'Union européenne. Moi j'ai comme chiffre en 2022 un nombre de personnes ayant migré vers l'Union européenne de 0,1% de la population européenne. Donc alors qu'il y a aussi des personnes qui en sont parties. Donc, on n'est pas non plus sur des grandes masses. Mais là, je pense qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est que on est sur la codification de la solidarité. Ça, c'est une avancée. Sauf que la Pologne et la Hongrie ont déjà annoncé qu'elles elles n'entendaient pas jouer le mécanisme de solidarité. On va voir ce que va faire la Slovaquie et d'autres pays qui vont peut-être se coaliser autour de ce refus-là. Donc, codification dans le droit, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en pratique? Ensuite, sur la partie, et puis Didier Leschi l'a rappelé, 30 000 migrants à relocaliser, c'est quand même pas énorme compte tenu des masses de personnes qui peuvent être, qui peuvent se voir octroyer l'asile. Je crois que c'est 490 000 l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises.
490 000 acceptés, oui,
voilà,
l'an dernier.
Avec donc reconnaissance du statut. Alors ensuite, je voudrais rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, qui est l'aspect juridique des choses. Parce que là, on parle de l'immigration illégale qui vient sous couvert de demande d'asile. L'asile, c'est un enjeu central du droit international. La Convention de Genève de 1951, elle est extrêmement importante, c'est un socle vraiment qui devrait être intangible. Et ce pacte entérine un certain nombre de situations qui peuvent être extrêmement préjudiciables à la réalité de l'asile, de la démarche pour pouvoir l'octroyer, etc. Et là, c'est très dangereux. Donc, sur l'asile...
C'est-à-dire que le pacte va à l'encontre du texte de 1951, c'est-à-dire le fragilise.
Dans une certaine mesure.
Par exemple.
Alors, par exemple, il y a la Convention de Genève pose quatre critères pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. Et il y a une notion qui prend de l'essor avec le pacte, qui est la notion de pays tiers sûr. Avec cette notion, vous pouvez éviter l'examen au fond de la demande d'asile et donc vous trouvez dans une situation d'irrecevabilité de votre demande parce que vous avez transité, vous avez un lien de connexion qui n'est pas vraiment défini dans le droit d'ailleurs, avec un pays tiers sûr. Or, l'esprit de la Convention de Genève, c'est que vous arrivez, vous êtes une personne qui fuit une persécution, ça résonne très fort dans l'histoire de l'Europe, hein, qui est un continent dans lequel il y a eu des persécutions, des pogroms dont on a fui, et vous arrivez et vous avez un droit absolu à ce qu'il y ait un examen au fond de votre situation personnelle in concreto, disent les juristes, c'est-à-dire au vu de la réalité des menaces que vous avez subies ou que vous subissez. Là, on ne va pas au fond, on déclare irrecevable sur le fondement du fait que vous avez un lien éventuel, plus ou moins distendu, on ne sait pas trop, avec un pays dans lequel il y a des zones sûres ou avec un pays qui est considéré comme sûr. Et donc c'est une analyse objective de la sûreté d'un pays. C'est un changement complet de paradigme entre une situation individuelle et une situation objective. Et la deuxième chose, c'est que dans le droit d'asile, il y a, pendant l'examen de votre demande, pendant le temps de traitement, un droit au séjour provisoire. Et c'est là où je rejoins pleinement Catherine Tricot, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a de nombreuses reprises considéré que les centres de rétention administrative n'étaient pas conformes aux principes liés au traitement, à l'interdiction des traitements inhumains, dégradants, etc. En particulier pour les familles avec enfants. Et à cet égard-là, la CNCDH s'est battue pour que, dans la loi française, il y a l'interdiction de mettre des enfants avec leur famille dans les centres de rétention. Et là, on se retrouve avec un texte européen qui l'autorise. Donc, c'est extrêmement compliqué parce qu'en plus, on voit, comme l'a rappelé Didier Leschi tout à l'heure, que l'Italie commence à dire, ah ben moi, mes hotspots, puisqu'on est dans une logique d'endiguement, je vais les construire en Albanie. Pas sûr que ce soit conforme en termes de conditions décentes. De même qu'on voit bien que ce pacte va s'inscrire dans une perspective plus large. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas le pacte en lui-même, mais il y aura sûrement des partenariats avec des pays comme la Turquie, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie ou l'Égypte, qui vont avoir comme vocation...
Qui ne seront pas forcément considérés comme des pays sûrs.
Et ben en tout cas, ils vont retenir les migrants pour les empêcher d'arriver en Europe pour déposer leur demande d'asile. Et à partir de là, on peut avoir une déperdition de cette capacité de ces gens-là qui fuient les violences pour pouvoir déposer leur demande d'asile. Donc, partenariat...
Magali Laforêt, c'est bien d'avoir été patiente. Pas trop longtemps non plus. Faut pas en profiter quand même. Hein. Marc Lazare, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème à légiférer parce que l'opinion considère que, c'est-à-dire, est-ce que c'est une bonne façon que de faire de la que de légiférer?
Bah, je crois quand même qu'il faut en tenir compte. Je dis pas qu'il faut céder sans arrêt aux sirènes de l'opinion publique, mais c'est quand même, il y a manifestement un malaise qui a été rappelé par Didier en termes aussi de perspectives sur l'état social, mais aussi sur cette inquiétude sur le mode de vie qui est en train de changer. Je crois que c'est des réalités qu'il ne faut pas réduire simplement à l'instrumentalisation qu'on fait à un certain nombre de partis pour d'évidentes raisons électoralistes et politiques. Donc il y a une réalité. Après, est-ce que c'est la bonne réponse? On est en train d'en discuter. J'entends vos arguments que je ne connaissais pas, donc ça très instructif, mais je crois que c'est une réalité. Cette réalité, on en avait déjà parlé dans une émission précédente, en même temps, il faut la relativiser, parce que, effectivement, quand on demande, encore une fois, aux opinions quel est leur point de vue sur le nombre d'immigrés, actuellement, il y a un rejet, ça n'a pas toujours été comme ça. Actuellement, il y a un rejet, mais en même temps, c'est pas la priorité des Européens, par exemple, dans la perspective des élections européennes. La priorité, l'enquête qui a été publiée par l'Institut Jacques Delors à partir d'une série d'éléments des eurobaromètres, qui a été signé par Bruno Cotterêts et Thierry Chopin, montre très bien les priorités actuellement des Européens. C'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de la santé, et c'est la question, on y viendra d'ailleurs tout à l'heure, du réchauffement climatique. Mais sur les deux premières questions, c'est-à-dire le pouvoir d'achat et justement la santé, il y a aussi des inquiétudes par rapport à l'arrivée de ces immigrés. Donc il y a un sujet, effectivement, auquel les responsables politiques, et notamment ceux qui entendent combattre les populistes, doivent se saisir. Deuxième réflexion, attention. Ce qui est intéressant, si j'ose dire, dans ce cas-là, c'est qu'on n'arrête pas de dire c'est instrumentalisé par les nationaux populistes, ils sont en plein développement. Mais cette ascension, elle est résistible. Elle est résistible dans le sens que, justement, ces formations sont complètement divisées. Vous avez raison. Quel est le meilleur ami en Europe de Giorgia Meloni? C'est Viktor Orban. Et c'est le premier à dire, il n'est pas question que je fasse la répartition. La Ligue vote le pacte migratoire, le Rassemblement national vote contre, alors que Marine Le Pen n'arrête pas de parler de son ami Matteo Salvini et de dire que ces deux partis sont alliés. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont incapables sur les questions d'immigration. Alors, ils sont capables de marteler cet argument, mais quand il s'agit de solutions, évidemment, ils se heurtent aux intérêts nationaux et à leurs divergences qui sont profondes.
Alors, ils sont capables, en tout cas, de gagner des élections. Alors, on verra bien ce que vont donner les élections européennes du mois de juin, mais enfin, en tout cas, ce qui est annoncé, c'est quand même une poussée de ces partis populistes. Catherine Tricot, est-ce qu'il n'y avait pas, de toute manière, urgence, puisque ce pacte migration et asile, je le disais, ça fait presque 10 ans que les Européens en discutent, est-ce qu'il ne valait pas mieux quand même, même si c'est un mauvais compromis, le faire maintenant plutôt que de le faire peut-être après, avec un Parlement qui n'aurait plus tout à fait la même couleur et avec un pacte qui pouvait être encore plus dur, c'est-à-dire que... Non,
j'en sais rien. Franchement, je vois pas comment. Enfin, je veux dire, on peut toujours anticiper le pire du pire et on peut se dire aussi que là, on a ouvert la porte au pire. C'est-à-dire que si demain, on arrive avec une dégradation politique encore du Parlement, on a, comme vous l'avez rappelé Marc Lazare, finalement justifié par avance la dégradation. Puisque vous l'avez rappelé, Meloni considère que c'est sa victoire, c'est considéré, comme Marine Le Pen avait dit lors de du vote de la loi immigration au mois de janvier, que c'était une victoire culturelle pour le Rassemblement National. Et aujourd'hui, Meloni peut se prévaloir en Europe d'une victoire culturelle et politique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que peut-être demain ça sera pire, mais je pense que nous mettons du carburant pour ce pire. Du carburant politique immédiat, c'est-à-dire que nous alimentons la machine à rassembler des voix du côté de l'extrême droite et nous alimentons la machine à la justification politique et idéologique de ces victoires à venir. Et entre autres choses, Marc Lazare, je ne crois pas du tout pertinent de relier la question de l'immigration avec la question de la destruction de l'État social. Franchement, je pense que l'immigration n'en peut, mais tout ce qui se passe
mais
en France...
Mais ça peut être perçu comme ça par une juge d'opinion.
Moi, la perception, si vous voulez, quand on est des personnes qui parlons sur des ondes très écoutées par le grand peuple, eh bien, on peut se dire que ce n'est pas possible de dire des choses pareilles. Parce que je pense que si vous prenez le parcours d'Emmanuel Macron depuis qu'il a a été ministre de l'économie et des finances en 2015-2016, il n'a de cesse que de détruire toutes les protections sociales en France avec la loi travail qui a été son premier grand œuvre, et depuis il n'arrête pas de remettre en cause. Non, c'est pas un autre débat, parce que ça n'a rien à voir avec les immigrés. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le dos de la destruction de l'État social. Et bien moi, ce que je vous dis, c'est que la perception, si elle est celle-ci, je le regrette, et en tout cas pour ce qui me concerne, je considère que ceux qui sont responsables de la destruction de l'État social sont ceux qui pensent que l'État social est à la base de notre affaiblissement international, européen et national. Et c'est Je suis totalement opposée à cette vision, et c'est donc sur celle-là que je pense qu'il faut argumenter, et non pas donner du grain à moudre à ceux qui pensent que c'est les immigrés qui viennent prendre notre maison, nos emplois et notre protection médicale.
Didier Leschi.
Par clarté, je n'ai pas dit ça.
Oui. Marc Lazare, voilà.
On sent bien qu'il y a des difficultés dans le débat, c'est-à-dire pourquoi, bien évidemment, l'extrême droite a progressé, et pourquoi l'extrême gauche et la gauche n'ont pas réussi à prendre en charge les questions sociales pour montrer à l'ensemble de la population que leur solution était meilleure que celle de l'extrême droite. C'est ça la vraie question. Et là se joue l'impact de la dérégulation, la question du pouvoir d'achat, par exemple.
La dérégulation, c'est-à-dire ?
La dérégulation sociale et économique, bien sûr. Ouais. La question du pouvoir d'achat, par exemple, c'est la question du logement. Hein. Or, la crise du logement, c'est-à-dire dès lors qu'on n'arrive pas à résoudre des questions sociales pour l'ensemble de la population, eh bien évidemment, l'ensemble de la population pour avoir ce sentiment, et parfois c'est avéré très concrètement, que la pression migratoire continue de faire dégrader la situation générale. Et c'est par exemple le problème du logement social, qui est aujourd'hui instrumentalisé peut-être par une partie de l'extrême droite, parce qu'en rappelant que un Algérien sur deux vit dans du logement social, que 35% des immigrés vivent dans du logement social, alors que ce n'est que 11% pour les non-immigrés. C'est des chiffres qui sont là, mais qui ne sont révélateurs que parce qu'on a une crise générale de la construction de logements, et que si on arrivait à résoudre cette question-là pour l'ensemble de la population, la question de l'immigration ne se poserait pas de la même manière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les immigrés peuvent être victimes aussi, en même temps qu'ils sont le révélateur de problèmes sociaux profonds. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un problème d'intégration qu'on ne peut pas nier. Intégration culturelle et intégration sociale. Et que la peur d'une partie de la population, c'est qu'il y a une part de l'immigration qui porte, je dirais, psychiquement, socialement, culturellement, le chaos. Et on le voit à travers un certain nombre de faits divers, mais on le voit à travers la question, par exemple, de l'islam, la manière dont elle s'insère ou pas dans la société française, avec le fait que culturellement, on est dans un écart qui s'agrandit entre les pays de départ et les pays d'arrivée pour certains pays, et que ça joue aussi, et que on n'arrive plus à le prendre en charge parce que l'intégration se faisait par le travail pendant très longtemps, grâce aux organisations syndicales, grâce aux partis politiques de gauche, grâce à ce qu'on appelait le mouvement ouvrier ou le christianisme social, et que la gauche elle-même a renoncé à ça en ne parlant plus de travailleurs immigrés, mais en parlant de migrants ou d'exilés. Quand on parle de migrants et d'exilés, ça veut dire qu'on dénie aux personnes l'utilité sociale. Moi, je préfère parler de travailleurs immigrés. Je pense que la question, c'était de revaloriser la question du travail par rapport à l'immigration. Hein, c'était en partie le débat sur la loi qui a été malmenée. Et c'est ça la question centrale. Et enfin, je terminerai sur les pays qui refusent, comme l'a dit Magali Lafourcade, la solidarité. Je pense que les partisans de l'Europe devraient faire attention. Hein, je veux dire que ces pays sont, comme l'avait rappelé Milan Kundera, des pays qui ont peur quant à leur existence. Et leur existence est de nouveau mise en cause par ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie. C'était ça le discours de Milan Kundera. Bon, et donc, eux, ils ne veulent pas toute immigration. La Hongrie, il y a de l'immigration. La Pologne, il y a de l'immigration. Ils ne veulent pas une certaine immigration. Et donc, il faut arriver à dialoguer avec eux sur pourquoi ils ne la veulent pas, en rassurant sur le fait que nous, cette immigration-là, eh bien, on arrive à l'intégrer. Elle peut, sur la durée, ne pas poser les problèmes qu'elle pose aujourd'hui.
Une courte réponse de Catherine Tricot avant qu'on passe à notre deuxième sujet.
Très très rapidement sur le logement social, depuis la loi Boutin, le logement social devient un logement pour pauvres. Et c'est donc des décisions politiques qui ont fait que désormais on réduit, alors qu'il était un logement accessible à 75% des Français, on y concentre de plus en plus la pauvreté et qu'on ne donne pas de moyens au logement social. Mais surtout, ce que je voulais vous dire à propos de l'intégration, c'est qu'en fait, je suis architecte, je l'ai déjà dit, et donc je fais des chantiers. Et sur les chantiers, je constate quelque chose de très intéressant, c'est que toutes La hiérarchie, je dirais, des chefs d'entreprise, aux conducteurs d'opérations, aux conducteurs de chantier et aux gens qui sont sur les chantiers, sont notamment des immigrés issus de...
Oui,
attendez, excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui sont depuis 2 ou 3 générations en France. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée que ça ne marche pas, je pense qu'il faut la relativiser. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en train d'intégrer en France de façon massive, et je le constate là où j'habite, à Bagnolet, et là où je travaille sur les chantiers, nous sommes en train d'intégrer l'immigration des années 60-70 de façon par le travail, certainement, mais en tout cas, c'est en train de se faire.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
C'est donc une grande première dans la lutte contre le changement climatique. Un État, la Suisse en l'occurrence, vient d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. La Suisse est reconnue coupable d'inaction. Elle aurait dû mettre en œuvre des mesures suffisantes contre le changement climatique. Et ce sont des retraités soucieuses de leur santé qui ont porté plainte.
C'est pourquoi.
Voilà, Véronique a 76 ans. Elle est suisse. Elle craint l'arrivée de l'été avec sa succession d'épisodes caniculaires. La chaleur m'épuise, explique-t-elle dans une interview au magazine Reporter. Alors je me planque. Sans ça, j'ai du mal à respirer. Je n'ai plus de vie sociale du tout. Véronique fait partie de l'association Les Aînés pour la protection du climat, qui vient d'obtenir un succès retentissant devant la justice européenne. Mardi, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a accédé à leur demande en condamnant la Suisse pour une action climatique. C'est la première fois qu'un tribunal international se prononce sur ce sujet. Et pas n'importe lequel, celui chargé en Europe de veiller au respect des droits de l'homme. Alors, question légitime, que viennent faire les droits de l'homme dans la crise climatique ? Eh bien, les juges estiment qu'en n'agissant pas suffisamment pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement suisse porte atteinte à la qualité de vie et à la santé de ses concitoyens. Alors, un tel jugement est à la fois symbolique et décisif. Symbolique parce que la CEDH ne prononce pas de sanctions contre la Suisse et que celle-ci va apprécier les mesures qu'elle souhaite ou pas mettre en œuvre. Décisif parce que dans un monde où les contentieux juridiques se multiplient autour de la question climatique, cette condamnation peut faire jurisprudence et ainsi citer d'autres organisations à se tourner vers les juges. Mais en condamnant la Suisse pour inaction climatique, la CEDH prend aussi un risque, celui de porter atteinte à la souveraineté des États. En quoi des juges non élus sont-ils légitimes à dicter à des gouvernements le contenu de leur politique, a fortiori à un moment où l'urgence écologique est fortement contestée dans une partie de l'opinion publique. Je commence avec vous, Magali Lafourcade. Je rappelle un secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CEDH. Vous connaissez ça par cœur. C'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce que les droits de l'homme viennent faire dans cette question autour de l'inaction climatique?
C'est très intéressant parce qu'effectivement, dans le débat français, on entend peu ce lien entre changement climatique, crise environnementale, effondrement de la biodiversité et les droits humains. Alors que vous allez dans l'espace de l'ONU, vous allez au Conseil de l'Europe, le lien est extrêmement fait depuis longtemps. En fait, quand vous êtes face à un réchauffement climatique, vous précarisez l'ensemble des droits humains. Et ça a été complètement reconnu par la communauté internationale, puisque que le Conseil des droits de l'homme, en 2021, a reconnu le droit à un environnement propre, sain et durable comme droit de l'homme, c'est-à-dire avec les mêmes caractéristiques que le corpus des droits humains, ça veut dire universel, interdépendant, intangible et surtout exigible auprès des États. Ça veut dire obligation juridique pour les États. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution en 2022 qui consacre aussi ce droit à l'échelle mondiale.
Sauf que, pardonnez-moi Magali Lafourcade, mais alors, j'ai pas vos compétences juridiques, mais si j'ai bien compris, les juges donc de la CEDH se sont basés sur la Convention européenne des droits de l'homme qui date de 1953 et notamment sur l'article 8 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Alors moi, j'ai vraiment du mal à faire le lien entre vie privée et familiale et protection par rapport au changement climatique.
Alors, justement, ce qu'on dit, je suis allée regarder la décision qui est passionnante, qui est très largement motivée, comme toujours, auprès de la Cour européenne, qui est un arrêt de grande chambre, donc très solennel. Donc, à la quasi-unanimité des juges, sur l'article 8, ils ont fait le constat de violation, parce qu'il ne s'agit pas de condamnation au sens où nous, on l'entend. Ils ont considéré qu'il y avait un droit à une protection effective par les autorités de l'État contre les effets néfastes, graves, du changement climatique sur la vie, la santé, le bien-être et la qualité de vie. Ils
se trouve que la Suisse, c'est un des pays qui se réchauffe le plus en Europe. Il est à plus de 2 degrés depuis l'ère industrielle, alors que l'échelle mondiale, c'est 0,9 degrés. C'est un des pays qui a un impact en termes de gaz à effet de serre qui est très important, puisque souvent on entend dire que c'est 0,1.
Rapporté à sa population.
Non, on entend dire que c'est 0,1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est pas tout à fait ça, puisqu'en fait, quand on inclut le secteur financier, c'est déjà 3%. Et en fait, on n'inclut même pas les émissions induites par l'importation de biens manufacturés. Et donc, c'est un des pays où l'impact en termes de chaleur pour les personnes âgées, c'est très intéressant, que ce soit des femmes seniors dans un pays riche qui est porté ce contentieux. Tout le monde se dit, mais pourquoi la Suisse? Mais en fait, la Suisse, c'est un des pays où on peut le plus attendre de capacité à réformer, à avoir une politique forte de réduction des gaz à effet de serre. Donc, elles souffrent des canicules, ça impacte la santé, ça impacte leur qualité de vie, et c'est ce que reconnaît la Cour en disant qu'il y a une inaction, puisqu'en fait, la politique qui est menée par la Suisse, c'est seulement une politique d'incitation de réduction des gaz à effet de serre.
Que pensez-vous de cette décision, Marc Lazare?
Non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on assiste pas simplement à la confrontation entre, en l'occurrence, la Cour européenne des droits de l'homme et les États souverains, comme vous le dites. C'est qu'il y a maintenant une autre forme d'action et de mobilisation collective des mouvements qui luttent contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'ils ne font pas simplement des manifestations, des protestations diverses, des pétitions, Greta Thunberg, etc. Mais ils saisissent justement la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai remarqué qu'il y a une série de recours qui arrivent ensuite. Greenpeace, par exemple, a porté plainte à propos de la Norvège qui veut concéder des nouvelles licences pour exploitation de gisements de pétrole et de gaz dans l'Arctique, qui contrevient aux engagements pris par le gouvernement. Et j'ai remarqué aussi que beaucoup d'autres structures sont sollicitées, la Cour internationale de justice, le Tribunal international pour le droit de la mer, la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc on a là une nouvelle forme de répertoire d'action. C'est plus simplement les répertoires d'action classiques, c'est que maintenant on en appelle au droit. Deuxième réflexion, cette décision arrive dans un curieux moment qui est contradictoire. C'est publié en avril, c'est-à-dire après le mois de mars, qui a été le mois le plus chaud qu'on ait jamais enregistré. Donc effectivement, ça montre l'urgence climatique. Mais d'autre part, et vous l'avez dit aussi, c'est au moment où est prise cette décision, en tout cas cette sentence plus exactement, ça doit être la formule qu'on emploie.
Constat de violation.
D'accord. La juriste me corrige immédiatement. C'est au moment où on a, encore une fois, on retrouve nos chers, si j'ose dire, nationaux populistes. Je plaisante, Catherine. La grosse mobilisation des paysans, en France, en Europe, qui a montré leur mécontentement par rapport à ce qu'on appelle le pacte vert, le Green Deal. Le fait, effectivement, qu'un certain nombre de nationaux populistes sont mobilisés à fond contre ce Green Deal et qu'ils en font un des axes de leur campagne pour les élections européennes, avec là encore des sensibilités différentes, parce qu'il y a ceux qui nient carrément le réchauffement climatique, c'est le cas de l'AFD, par exemple, en Allemagne. Il y en a qui sont plutôt eurosceptiques, c'est le cas de la Ligue de Matteo Salvini. Et il y en a qui reconnaissent la réalité du réchauffement climatique, c'est la position, d'ailleurs, plus complexe, hein, du Rassemblement National et de Jordan Bardella. C'est-à-dire que au moment où cette... comment vous avez appelé ça ?
Cet arrêt de constat de violation.
Cet arrêt, voilà. Arrive à un moment politique qui, justement, fait que cette question du réchauffement climatique va être un des grands sujets des élections européennes.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que, peut-être que, alors, cet arrêt va va pas tellement impressionner, finalement, va pas tellement être dissuasif pour les États, qui vont plutôt se préoccuper de savoir si leur opinion est favorable à ce qu'on accélère la lutte contre le changement climatique, plutôt qu'à une éventuelle sanction. Je rappelle, la Suisse, elle est donc sanctionnée, enfin, elle est condamnée pour inaction climatique. Et voilà, mais enfin,
Non, c'est les frais de justice de l'association requérante, 80 000 euros, c'est le remboursement. Il n'y a pas d'amende.
Le pays, d'accord. Non, c'est intéressant, là aussi, votre question, parce que je crois que, là encore, les opinions publiques sont dans une situation, j'allais dire, ambivalente. D'un côté, il y a cette protestation, notamment, qui a été manifestée par les grandes mobilisations paysannes. Mais quand vous regardez toutes les enquêtes qu'on a, une grande partie des Européens considère que la question du réchauffement climatique est une des priorités absolues. Et par conséquent, la grande leçon d'abord de la crise des Gilets jaunes et aujourd'hui de cette question paysanne et sans doute d'autres catégories sociales, c'est comment articuler une politique contre le réchauffement climatique avec la justice sociale. Ça, c'est la question absolument décisive. Et donc, c'est pas pour les États aujourd'hui de se dire « il faut que j'applique l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et quel est l'état de l'opinion publique, elle n'en veut pas, donc j'y renonce ». C'est comment absolument, et ça c'est, je pense, la responsabilité des responsables politiques, d'essayer de répondre à cette inquiétude justement sur le réchauffement climatique, mais en prenant en compte la justice sociale.
Cette décision de la CEDH, Didier Lesquiz, c'est une décision importante, ouais, cet arrêt.
Bien, tout ce qui va dans le sens d'une lutte contre le réchauffement climatique est une décision importante, bien évidemment. Après, pour le néophyte que je suis, les choses sont un peu plus étranges, parce que, moi je suis pas un spécialiste, hein, mais la Suisse, c'est une des économies de l'OCDE les plus décarbonisées. C'est là où on a un mixte énergétique qui est quand même très vertueux. Enfin, c'est jamais suffisant, mais enfin, c'est moins de 50% d'énergie fossile. C'est une énergie hydraulique extrêmement développée. C'est aussi une part de nucléaire. Et donc, il y a là des débats essentiels, parce que si j'ai bien compris le groupe de dames qui a introduit l'action est quand même très lié à Greenpeace. Greenpeace, c'est quand même l'association qui aura milité contre même les recommandations du GIEC et qui continue de le faire avec cette idée qu'il faut supprimer toute énergie nucléaire, alors que le GIEC rappelle chaque année dans ses rapports que on ne peut pas penser la décarbonisation et la fin de lutter contre le réchauffement climatique si on n'a pas une part de nucléaire. Et
enfin, le GIEC dit voilà, donc, parmi les solutions, il y a notamment le nucléaire.
Ben oui, il y a notamment
le nucléaire, préconise pas forcément d'y avoir recours.
Non, mais il y a notamment le nucléaire, et alors que Greenpeace dit qu'il faut qu'il n'y ait absolument pas de nucléaire, et on voit bien quelque conséquences stratégiques ça a pu avoir, par exemple, en Allemagne, même si l'Allemagne a depuis rattrapé sa situation. Mais enfin, la réouverture des centrales à charbon au moment de la fermeture des centrales nucléaires, ça a été un coup écologique extrêmement fort qui a sans doute fait perdre beaucoup d'énergie et de retard sur les perspectives que pouvait se donner l'Allemagne en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Donc je pense que derrière tout ça, il y a toutes ces questions, et je suis d'accord avec Marc Lazare, c'est derrière ces questions, il y a comment on accompagne le changement tout en faisant en sorte que il soit acceptable socialement, c'est-à-dire qu'on puisse entraîner socialement les gens à l'accepter. Et malheureusement, il y a un certain nombre de discours ou d'actions qui ne prennent pas en compte, je dirais, le droit des gens au sens de leurs droits sociaux.
Mais sur la question, j'aimerais encore vous entendre là-dessus, Didier Lesquiz, sur la mécanique politique. Je vous soumets par une réflexion lors d'un magistrat, Georges Fenech, assez connu, qui répond à une interview sur le site Atlantico. À propos de cet arrêt, et qui dit donc à propos de cet arrêt de la CEDH, nous assistons aujourd'hui à une forme de substitution des juges au pouvoir politique. Chaque État n'a de compte à rendre sur le plan politique qu'à son propre peuple. Il n'est certainement pas tenu de le faire par une instance qui plus est judiciaire.
Écoutez, je suis pas sûr que Georges Fenech soit un lecteur de Montesquieu, mais si vous voulez, il y a là un problème.
Parce que c'est une critique qui est quand même formulée régulièrement à la CRT. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer, notamment sur les questions migratoires, d'ailleurs.
Un pouvoir nécessite un minimum de contre-pouvoir pour qu'on soit encore en démocratie.
C'est la même chose sur le Conseil constitutionnel en France.
Mais après,
Cour constitutionnelle en général.
Oui, bien sûr. Voilà. Après, moi, si vous voulez, pour rejoindre la question précédente, je pense par exemple qu'une des choses qu'il faut travailler, c'est comment on fait en sorte de ne pas utiliser l'immigration de manière inconsidérée par rapport au réchauffement climatique. Je rappelle par exemple que l'organisme que je dirige fait venir tous les ans près de 20 000 saisonniers par avion, alors qu'on a des dizaines de milliers de personnes qui sont là, à qui on a accordé un titre de séjour au titre de l'asile, qui ne demanderaient qu'à travailler et à s'insérer dans l'économie, mais que la facilité patronale, c'est de faire venir très vite des gens qu'on va peu payer et qu'on va après renvoyer dans leur pays d'origine. Et ça, c'est un coût climatique extrêmement fort.
Et vous voulez dire que ça fait partie aussi des préoccupations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est-à-dire d'essayer aussi de penser on va dire le bilan carbone de ce que représente l'immigration de travail.
moi, je suis en train de... Oui, plusieurs fois, j'ai déjà dit que l'utilisation de travailleurs saisonniers dans des conditions sociales qui ne sont franchement pas optimales, en particulier dans certaines régions françaises, alors qu'il y a des personnes ici qu'il faut amener vers l'autonomie, vers l'indépendance, parce que c'est ça qu'elles souhaitent, eh bien, me semble une facilité et qu'on peut interroger aussi au regard du climat.
Catherine Tricot.
Je trouve que cette décision est importante parce qu'elle est un encouragement, d'une certaine manière, à porter devant les juridictions cette question des exigences et de l'inaction climatique, puisque ça a été en tout cas le cas en France où le gouvernement français a été mis en cause. Ce n'est pas la première fois que la Cour européenne porte un jugement sur un sujet qui est lié à la question environnementale. La Turquie avait été condamnée, notamment parce qu'il y avait eu des déchets, une déchetterie qui avait causé un effondrement de terrain et 39 personnes avaient été tuées à cette occasion. Donc ce n'est pas la première fois. Enfin, la troisième chose que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas très coercitif. C'est-à-dire que la France, par exemple, a été condamnée à plusieurs reprises sur l'état de ses prisons. Avec indignité dans la vie pour les prisonniers, on peut dire qu'on n'en a rien à faire. C'est pas parce qu'on est condamné qu'il se passe quoi que ce soit dans les politiques publiques à l'égard des prisons françaises. Donc cette question-là, moi, je la trouve préoccupante, ce que vous avez rappelé sur le débat public, c'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus une remise en cause, soit du Conseil constitutionnel, soit de la CNDH. Là, j'ai en tête les déclarations de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui se faisait fort d'avoir maintenu une décision d'éloignement, je cite, qui a conduit la condamnation de la France par la CEDH, cet arrêt ne m'a pas empêché de l'expulser. C'est-à-dire qu'on
On avait eu l'occasion d'en discuter dans cette émission.
On passe outre, en tant que ministre, on passe outre les décisions de la CEDH. Et du Conseil d'État. Et je crois que, en effet, c'est ce que vous venez de dire l'un et l'autre, c'est qu'en fait, ça, c'est qu'on ouvre la voie, et c'est malheureusement porté par le ministre de l'Intérieur, ce qui est gravissime, c'est porté par un des candidats putatifs du DLR, Wauquiez, qui dit qu'il faudrait se débarrasser du Conseil constitutionnel, et c'est porté par l'extrême droite, qui pense que tout ça, ce serait le gouvernement des juges contre la politique. Et en effet, tout ça, c'est en fait une ouverture on prépare l'ouverture à une remise en cause, finalement, des fondements de notre démocratie telle qu'elle s'est constituée progressivement au fil des temps, à la fois à l'échelon national et européen. Donc, ça fait partie des mauvaises nouvelles. Il faudrait que les décisions et les arrêts de la Cour européenne soient considérés comme des exigences et pas comme des indications à titre comme ça de réflexion philosophique.
Donc vous avez commencé votre intervention en disant c'est plutôt une bonne nouvelle, vous la terminez en disant finalement elle n'est pas si bonne que ça.
Non, c'est une bonne nouvelle, mais ce qu'il faudrait c'est que ce soit suivi des faits, c'est ça que je veux dire.
Est-ce que la CEDH dispose de moyens de faire appliquer ces arrêts?
Alors,
Magali Afoukade.
L'article 46...
Parce que là, l'idée, c'est la recommandation, c'est, je cite, « Les États doivent mettre en place les mesures nécessaires de régulation et de prévention contre une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. » C'est assez large et globalement, on peut dire quand même qu'il y a un certain nombre de pays qui le font. C'est le cas de la France.
Alors, il y a une force obligatoire aux arrêts de la Cour qui dépasse l'effet inter partes, c'est-à-dire que c'est plus qu'entre la Suisse et l'association requérante. Ça intéresse tous les autres pays qui ont la même problématique et qui pourraient se faire condamner également par la Cour européenne.
Donc les effets... C'est-à-dire que si cette décision concerne la Suisse, elle concerne tous les pays qui sont membres, qui ont signé la convention.
C'est pas un effet erga omnes, c'est-à-dire vis-à-vis de tout le monde, mais ça dépasse. C'est pour ça qu'il y a eu un intérêt extrême des États. Et j'ai noté qu'il y avait eu beaucoup de pays qui avaient fait une tierce intervention dans le cadre de ce contentieux pour apporter leur vision des choses. Donc ça m'a vraiment marqué parce que c'est quelque chose assez atypique qu'il y en ait autant. Non, pour répondre à Catherine Tricot, il y a un effet obligatoire, mais seulement sur le résultat. C'est-à-dire que la Suisse a l'obligation de se conformer aux exigences de la Cour. C'est écrit comme ça. Mais la Cour renvoie au comité des ministres, qui est un organe politique, pour voir la façon dont la Suisse va s'acquitter de ces obligations-là. Et donc, il y a une liberté des moyens, une marge d'appréciation sur les moyens, mais dans la motivation de l'arrêt, la Cour Cour donne un certain nombre d'indications sur le budget carbone, sur avoir un calendrier, des étapes intermédiaires, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça va être après une démarche politique. Le comité des ministres, c'est un comité qui réunit les États du Conseil de l'Europe et qui va devoir se montrer très allant pour forcer la Suisse à prouver sa crédibilité comme acteur des droits humains important. Et il n'est pas certain que de ce point de vue-là, il y a un grand effet. Donc moi aussi, je suis très enthousiaste vis-à-vis de ce jugement, surtout que de cette décision, surtout que il y a un autre volet dans cette décision, c'est l'article 6 sur le droit à un accès à un tribunal. Où c'est une claque terrible pour les juridictions nationales suisses. Et ça envoie beaucoup de messages aux autres juridictions
là,
nationales.
Là, l'idée, c'était que la Suisse n'avait pas,
ils n'ont pas jugé sérieusement les griefs parce que les voies de recours internes avaient été épuisées par l'association requérante et ils n'ont pas traité sérieusement ce contentieux-là.
Et ça ne concerne que la Suisse. Hein,
mais c'est entendu par tout le monde parce que maintenant, tout le monde va pouvoir s'appuyer sur ces préconisations de la Cour européenne dans les contentieux nationaux. Et c'est ça la force de cet arrêt. Je suis pas très convaincue au niveau politique. Je partage cette inquiétude. Je pense aussi que le temps de la justice est vraiment pas le temps de l'urgence climatique. Il y a plein de défauts, mais ça va permettre quand même d'objectiver le fait que la Suisse n'a pas fait ce qu'il fallait, puisque ça donne une vérité juridictionnelle. On pourra pas dire dans l'espace médiatique, nous en Suisse, on est parfait, on respecte les objectifs. Ça, c'est posé maintenant d'un point de vue juridictionnel.
Et en même temps, force reste aux politiques. C'est pas plus mal, Marc Lazare.
Je crois qu'il faut l'interpréter cet arrêt comme une incitation. Ça va être une incitation pour tous les mouvements qui luttent, encore une fois, contre le réchauffement climatique, parce qu'ils vont pouvoir multiplier les recours, s'appuyer sur cet arrêt pour essayer d'obtenir ce qu'ils entendent obtenir. C'est aussi une incitation au débat public, au véritablement débat public. On va voir dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, justement, quel va être le débat public sur ces questions. Et puis, ça va être une incitation aux décisions politiques. Et là, je crois qu'on va voir qui est homme d'État et qui est homme politique. Pourquoi je fais cette référence, c'est la fameuse formule du démocrate chrétien Alcide de Gasperi qui disait l'homme d'État pense aux prochaines générations et l'homme politique pense aux prochaines élections. Et je crois que c'est une très bonne formule et on va voir effectivement si on a en Europe des hommes d'État ou des hommes politiques, ou maintenant on dirait des hommes et des femmes d'État et des femmes et des hommes politiques.
Ça a l'air de vous plaire ça, Didier Lesky.
Absolument.
Cette référence.
Voilà, mais je crois que Marc Lazare a raison, mais sur tous ces sujets qu'on a abordés, l'essentiel c'est de repolitiser les discussions et il ne faut pas que le droit soit un paravent pour ne pas politiser les sujets, c'est-à-dire avoir un véritable débat éclairé et après on prend les décisions nécessaires. Et c'est vrai que parfois on a le sentiment que s'appuyer derrière les juridictions, c'est une manière d'éviter le débat. Et c'est peut-être ce que ressent une partie de la population.
Catherine Tricot.
Bon, je crois que la question climatique est devenue un débat politique. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti justement de cette abstraction et que ça devient un conflit. D'ailleurs, il y a des conflits aujourd'hui politiques sur la manière de lutter contre le réchauffement climatique, d'atteindre, comme vous le disiez tout à l'heure, Marc Lazare, cette convergence entre les objectifs sociaux et les objectifs climatiques qui sont absolument la clé de la faisabilité, de l'acceptabilité de ces enjeux. Donc, je crois que cette décision, elle va conforter, comme vous l'avez dit, toutes les ONG notamment et les acteurs de la lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité, mais que c'est déjà devenu un enjeu politique assez fort et ça ne s'opposera pas. En l'occurrence, j'ai l'impression que cette dichotomie entre l'homme politique et l'homme d'État, j'ai pas l'impression qu'on puisse aujourd'hui se prévaloir de la politique et mettre de côté une réponse étayée sur les enjeux climatiques. On est très à côté de la plaque si on fait ça.
Il y a quand même une tendance, là, on voit bien avec cette mobilisation paysanne, que y compris la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait marche arrière, que le Parti populaire européen a basculé. Ça, c'est tout à fait important, encore une fois, dans la perspective des élections européennes, en disant on est peut-être allé trop loin, il y a trop de protestations et de désaccords. Et ce qui signifie, s'il y a ces désaccords et ces protestations, qu'il y a un malaise autour de ces questions. Donc, il y a encore énormément de travail à faire pour que toutes les... Parce que les catégories de la population, entre guillemets, éclairées, sont absolument convaincues du réchauffement climatique. Je le répète, une grande partie des Européens en sont tout à fait convaincus. Et c'est un motif d'inquiétude et d'angoisse. Mais après, c'est le problème, c'est la traduction de cela. Quand, par exemple,
Il y a un malaise ou un conflit, Marc est-ce que c'est... Parce que le problème, là, c'est qu'en l'occurrence, pour moi, c'est l'indicateur que ça devient politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord sur la solution.
Oui, mais par exemple...
Ça devient politique, vraiment.
Oui, mais c'est... devient politique, ça devient aussi social lorsque, par exemple, les travailleurs de l'industrie automobile allemande sont absolument réticents à l'idée de ne plus pouvoir construire les BMW, les Mercedes et compagnie. Ou quand en Italie, c'est la même chose avec les usines Fiat. C'est par exemple un des grands arguments de Matteo Salvini. Donc ça mérite encore un débat parce qu'une partie de la population à la fois est consciente et inquiète sur les effets que pourraient donner justement ces politiques climatiques. Et ça va être un des grands enjeux des élections européennes.
Hein, ça mérite encore un débat. On va en consacrer au moins d'ici aux élections européennes. Merci beaucoup Magali Lafourcade, Catherine Tricot, Marc Lazare et Didier Leschi d'avoir participé à cette discussion dominicale pour cette émission L'Esprit Public, préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Sam Bakiast, avec à la prise de son aujourd'hui Ludovic Auger.